Sur Radio Galaxy, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Mirassou. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le président de l'ANACR 31, l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance du Comité Haute-Garonne, et qui regroupe aujourd'hui des milliers de personnes pour continuer à pérenniser ces valeurs qui font partie de notre histoire, monsieur Mirassou.
Absolument. Et la Haute-Garonne est bien représentée parce que malheureusement, l'épreuve du temps fait que ceux qui ont participé directement à la résistance à l'occasion du deuxième conflit mondial se font de plus en plus rares. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, dans les années 70, l'ANACR s'est attachée à recruter, entre guillemets, ceux qui n'avaient pas vécu ce conflit, mais qui étaient prodigieusement intéressés par les thématiques qui sont développées et surtout l'obsession, mais au sens le plus positif du terme qui est la nôtre, de faire vivre l'esprit de résistance et les valeurs qui ont été mises au devant de l'actualité pendant la résistance. Mmh. Et qui ont du reste été concrétisées dans le cadre de l'élaboration du programme du Conseil national de la résistance appelé les Jours heureux.
Dans cette association, ce sont des hommes et des femmes pour qui la période de la résistance a beaucoup d'importance et souhaitent, je dirais, approfondir leurs connaissances sur le sujet.
C'est ça, c'est exactement ça. Et il y a une espèce de filiation, parce qu'au départ, bien sûr, par la force des choses, quand cette association sur le plan national a été créée, elle était principalement composée de ceux qui avaient fait la résistance. Et Dieu sait s'il y en avait. Je citerai Cordier, Cortot, Chambérin, Chaban-Delmas, Roll-Tanguy, bref, des gens qui sont connus pour leur participation active et déterminante à la résistance. Et ensuite, bien sûr, il y a une forme de filiation, parce que les résistants ont toujours laissé dans leur propre famille, que ce soit d'ailleurs leur famille philosophique, politique ou leur famille tout court, une espèce d'héritage dont ils ont fait en sorte que les légataires soient en situation de le faire fructifier. Mmh. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on parle de la résistance, il y a bien sûr un devoir de mémoire et en même temps un hommage à rendre à ceux qui se sont illustrés, parfois et souvent en payant le prix fort. Mais au-delà de ça, c'est un enjeu qui est véritablement d'ordre sociétal. Parce qu'on dit le programme du Conseil national de la résistance, on devrait dire plutôt le projet du Conseil national de la résistance. Et la meilleure preuve en est, c'est qu'à l'époque, donc, quand il a été adopté, en 1944, il y avait un certain nombre de choses très précises qui ont débouché sur leur concrétisation après les années de la libération. Mais sur le plan des principes, ce qui est évoqué à cette époque-là présente encore un caractère d'actualité qui est passionnant.
Vous me direz si je me trompe, mais cette Seconde Guerre mondiale qui a fait cette période de résistance, c'était tout de même la première guerre idéologique, c'est-à-dire que jusque-là, on avait des guerres entre nations pour diverses raisons, qu'elles soient territoriales ou économiques. Mais là, cette guerre, on se battait en plus pour défendre nos idéaux. Donc c'est quelque part une des raisons principales pour ne pas perdre cette mémoire.
Oui, et du fait de la réaction, mais au sens positif du terme, que les démocrates se sont eux-mêmes imposés, compte tenu de ce qui s'était passé précédemment à la fois en Italie avec le fascisme et en même temps, ou juste après, en Allemagne avec le nazisme. Et donc, les orientations de ces deux idéologies étaient parfaitement antinomiques avec la conception qui est la nôtre, encore bien sûr, de la République. Parce que au-delà de ce qui a été évoqué en termes de, ou qui a eu lieu en termes de barbarie, d'atrocité et tout, le nazisme a procédé avant tout à la destruction, à l'anéantissement de la dignité humaine. Et ça, je trouve que c'était ce qui avait le plus de connotation négative. Et donc, par réaction, en quelque sorte, la résistance a tenu à reprendre le flambeau républicain pour continuer à mettre à l'ordre du jour nos principes républicains, c'est-à-dire égalité, liberté, fraternité, mais également dignité humaine. Cette espèce de recette, en quelque sorte, a pris corps, petit à petit, difficilement, mais à respecter ô combien les fondamentaux de la République.
Jean-Jacques Mirassou, quelles sont les missions concrètement de l'association? Est-ce qu'il y a des commémorations qui sont organisées au long de l'année?
Oui, là nous sommes en début d'année 2024 et en faisant un rapide bilan de ce que nous avons fait l'an dernier, je me suis aperçu que l'ANACR avait été présente dans plus de 40 événements à connotation patriotique ou ayant directement trait à la résistance en Haute-Garonne. J'en suis très fier parce que ça veut dire que la mission qui est la nôtre, mettre en place un dispositif pédagogique à l'égard des jeunes, c'est ça qui nous intéresse surtout, est encore d'actualité. On essaie de faire vivre ou de susciter cette prise de conscience à l'occasion de notre présence dans tel ou tel événement. Alors ça peut partir d'une conférence qu'on fait dans un collège jusqu'à une cérémonie beaucoup plus importante. Je pense à celle du 27 mai par exemple. Le 27 mai étant la date de commémoration de la création du Conseil national de la Résistance, ou des spectacles qui peuvent avoir une connotation éminemment pédagogique.
Et nous allons fêter très prochainement le 80e anniversaire de l'adoption du programme de la Résistance. Ce sera le 15 mars,
c'est
monsieur
ça,
Mirassou.
Ce sera le 15 mars 2024, puisque ce programme a été adopté à l'unanimité par les membres du Conseil national de la Résistance le 15 mars, 80 ans en arrière, donc 1944. Et dans ce programme, il y avait deux volets. Un volet qui consistait à dire, en termes d'application immédiate, quelle est la mission du CNR. Et c'était une mission qui était indispensable, parce qu'il s'agissait de réorganiser, d'unifier la résistance sous l'autorité de Jean Moulin et du général de Gaulle, pour que la lutte armée contre l'occupant et contre le régime de Vichy soit beaucoup plus pertinente et beaucoup plus efficace. Et le deuxième volet de ce programme, c'était de jeter les bases permettant d'imaginer la société française au lendemain de la victoire. Je qualifie toujours ce deuxième volet d'acte politique très fort, parce qu'en 1944, ou en 1943, quand le CNR a été créé, c'était la période où l'occupant et son complice pétainiste avait mis en place un système répressif sans pitié à l'égard de la résistance. Et donc il y a des gens qui ont eu la lucidité ou la capacité, malgré cette situation-là, d'imaginer ce que serait la société au lendemain de la victoire. Je trouve ça admirable et empreint, encore une fois, d'une grande lucidité politique.
Ce sera le 15 mars, donc, pour ce 80e anniversaire de l'adoption du programme de la Résistance. Ça va se dérouler sous quelle forme et qu'est-ce qu'il va se passer sur cette journée?
Eh bien, nous, on a choisi délibérément d'étaler nos actions à partir du 27 mai de l'an dernier jusqu'au 27 mai de l'an prochain. Et il y aura un point d'orgue, bien sûr, non pas le 15, mais pour des raisons pratiques, mais le 14 mars, où en collaboration, en partenariat avec le musée de la Résistance, nous organisons deux choses. D'abord, une pièce de théâtre relativement courte, avec une scénographie attractive, où des élèves du collège de Jolimont, vraisemblablement, auront l'occasion d'évoquer un certain nombre de points précis du programme du Conseil national de la Résistance, singulièrement dans le registre sociétal, parce que c'est ça qui les intéresse. Et ensuite, aura lieu, à la fin de l'après-midi, un colloque qui sera animé par des historiens qui, pour la plupart, font partie de la Fondation de la Résistance, et également Jean-Jacques Mirassou, celui qui vous parle, en tant qu'ancien sénateur et qui a été à l'origine de la loi portant sur l'anniversaire, tout le 27 mai, de la création du Conseil national de la Résistance. Et on espère que par le biais de cette action, qui engagera aussi un partenariat avec Sandrine Floureux, qui est vice-présidente du Conseil départemental et qui s'occupe du Conseil départemental jeunesse, pouvoir travailler pour essayer d'imaginer dans l'esprit des jeunes, c'est eux qui le feront, on ne le fera pas à leur place, quelles pourraient être leurs options en ce qui concerne une société plus fraternelle, plus généreuse et qui serait en quelque sorte le duplicata, mais en 2024, de ce qu'avaient imaginé nos glorieux anciens il y a 80 ans passés. Donc éminemment pédagogique.
Donc le 15 mars pour ce 80e anniversaire, on aura toutes sortes de générations qui seront là pour la célébrer ensemble. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer aujourd'hui aux jeunes générations ?
Oui, leur dire que compte tenu de ce qu'on peut observer à travers le monde, mais aussi dans notre pays, où il y a systématiquement une remise en cause d'un certain nombre d'acquis dont on pensait qu'ils étaient intouchables. Quand je dis ça, je pense à la remise en cause de l'avortement aux USA, aux actes d'antisémitisme et de racisme qui se perpétuent ici, en France et ailleurs, l'avènement de thèses extrémistes qui ont prévalu en Italie ou en Argentine, je dis qu'il y a danger. Et donc, sans être démesurément alarmistes, les jeunes actuels sont ceux qui feront nation demain. Et le moins qu'ils puissent faire, c'est de se comporter en citoyen lucide, de manière à ne pas subir leur propre destin.
Jean-Jacques Mirassou, président de l'ANACR 31, vous êtes également ancien sénateur, et à ce titre, vous avez rédigé une loi sur l'instauration du 27 mai, une journée nationale de la résistance. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, c'était une commémoration officielle qui était demandée depuis très longtemps par toutes les organisations ou les associations ayant trait à la résistance. J'ai réussi à faire voter une proposition de loi qui consacre tous les 27 mai comme étant la journée de la résistance. Pourquoi la journée de la résistance ? Parce que c'est le 27 mai que, pour la première fois, en 1943, s'est réuni le Conseil national de résistance présidé par Jean Moulin. Et donc, c'est dans le calendrier officiel. Et un des caractères de cette loi, c'est aussi d'interpeller l'éducation nationale pour que ce jour-là, dans les collèges et dans les lycées, il y ait un enseignement qui soit dédié à ce qu'a été la résistance, ce qu'elle représente encore et quel a été son projet de société.
Puis il doit y avoir des commémorations aussi peut-être dans les communes.
Bien sûr, comme ça fait partie du calendrier officiel, logiquement, toutes les communes se doivent ce jour-là de faire un geste à l'égard de ceux qui ont payé le prix fort. Et ils sont nombreux en Haute-Garonne.
Ouais, malheureusement, ils sont nombreux. Avant cet entretien, vous m'aviez parlé d'un autre événement qui se déroule fin juillet.
Oui, l'ANACR en Haute-Garonne a trois dates de référence. Fin juillet, parce que c'est le 27 juillet que Marcel Langer a été, pour fait de résistance, guillotiné à la prison Saint-Michel. Le procureur général a dit « Vous êtes communiste, juif et résistant. Trois bonnes raisons de vous condamner. » Ça se passait comme ça, hein, la justice sous Vichy. Et donc, à l'occasion de cet anniversaire-là, on fait en sorte d'amener des collégiens sur la tombe de Marcel Langer, qui est située à Jolimont, de manière à expliquer quelle a été la nature de son combat. Ensuite, il y a, dans le cadre des cérémonies relatives à la libération de Toulouse, une cérémonie qui a lieu aux alentours du 19 août à la prison Saint-Michel, où justement a été guillotiné Marcel Langer. Ils sont au moins une dizaine à avoir été fusillés dans l'enceinte de la prison Saint-Michel pour fait de résistance, plus tous ceux qui ont transité là et qui ont été déportés ou exécutés ailleurs. Et ensuite, il y a bien sûr le 27 mai, où en tant qu'association un peu représentative, on participe à la cérémonie organisée conjointement par l'État et la mairie de Toulouse. Et là, vraisemblablement, j'aurai à cœur une nouvelle fois de dire ce que j'ai à dire sur l'ANACR et ce qu'elle représente.
Monsieur Mirassou, pour terminer cet entretien, est-ce qu'on peut parler du programme du CNR, le Conseil National de Résistance ?
Alors tout à l'heure, je disais que plus qu'un programme, il s'agissait véritablement d'un projet de société. On a évoqué la première partie du programme en question qui consistait, par le biais de l'unification des mouvements de résistance, d'être plus efficace contre l'occupant, sous l'autorité de Jean Moulin et du général de Gaulle. Je précise de suite que Jean Moulin a été arrêté à peine trois semaines qui ont succédé à la création du CNR. Mais il faut croire que ce CNR était bien construit, puisque malgré la disparition prématurée de Jean Moulin, il a continué à fonctionner dans l'efficacité et à atteindre ses objectifs. Et la deuxième partie du programme, donc, c'était un programme qui consistait, je l'ai dit tout à l'heure, à fabriquer en quelque sorte la nouvelle société française au lendemain de la victoire des Alliés. Et là, il y avait du travail parce que il fallait remettre la dignité humaine à l'ordre du jour, rétablir l'ensemble des libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, et puis également engager sur le plan économique un certain nombre de choses très importantes. Réappropriation des moyens de production par l'État, des moyens de locomotion, la SNCF, distribution de l'électricité, et puis également mettre en place sur le plan de l'organisation des travailleurs les conventions collectives, remettre au goût du jour l'action des syndicats et surtout ensuite la création de la sécurité sociale permettant de faire jouer à plein la solidarité, avec au passage d'ailleurs la garantie par rapport à l'accessibilité à une retraite décente permettant aux travailleurs de vivre dignement. C'est rédigé comme ça. Hein. Et puis également la liberté de la presse et bien d'autres choses qui ont fait que l'appellation « les jours heureux » n'était pas galvaudée. Mmh. Et quand on est sorti du trou noir dans lequel était notre pays et que ces pans entiers d'avenir optimiste ont été ouverts, on comprend la liesse qui a accompagné la libération à Toulouse, en Haute-Garonne, comme ailleurs. Je précise au passage d'ailleurs que Toulouse s'est libérée par elle-même. Mmh. Elle n'a pas eu besoin d'avoir recours aux forces armées. Ensuite, j'ai eu l'occasion de le dire dans un texte que j'avais présenté il y a quelque temps, la gestion de la ville a trouvé l'application à l'échelon local de ce que je viens d'évoquer à l'échelon national. Puisqu'on a créé, par exemple, une unité dépendante de la municipalité pour produire l'électricité, les réseaux de transport en commun, l'aéronautique a été bien servie avec la création de structures qui permettaient aux travailleurs de dire ce qu'ils avaient à dire sur les projets économiques ou industriels. Et ensuite, bien sûr, une liberté de la presse qui a fait que le couvercle s'est soulevé. On a de nouveau eu accès aux discours, aux prises de position, à la culture. Il n'y avait pas moins de 10 à 11 quotidiens à Toulouse, à la Libération. Donc ça veut dire que ça bouillonnait et que le besoin existait vraiment. Quand je dis tout ça, ce n'est pas dans un esprit passéiste. Mmh. Même s'il faut honorer tous ceux qui ont participé à ce combat, ils le méritent bien. Ce n'est pas un hasard s'ils sont maintenant 4 au Panthéon, bientôt rejoints par Manoukian. Mais c'est aussi pour dire, regardez ce qu'ont fait ces gens-là, ça vaut le coup de s'en inspirer et de rien lâcher. Parce que je considère parfois qu'on s'éveille trop souvent au fatalisme. Et donc, François Mitterrand disait, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et je crois que s'il y a la volonté, il y aura à nouveau un chemin intéressant à faire.
Monsieur Mirassou, il y a quelque chose de très important qui a participé à l'élaboration du projet.
Oui, il y a deux éléments qui avaient été choisis délibérément par les membres du CNR. L'un qui consistait à afficher le primat du politique sur tout le reste. C'est-à-dire que dès l'instant où le projet politique était validé, le côté technique ou économique devait se mettre en adéquation avec la volonté politique. Ça, c'est un précédent. Et ensuite, il y avait un deuxième critère qui était lumineux de mon point de vue, c'est que l'intérêt général supplantait la juxtaposition des intérêts particuliers. Voilà ce qui fait société et qui réconcilie d'une manière beaucoup plus générale la population avec le fait politique. On en manque cruellement aujourd'hui. Parce que quand vous prenez des décisions, notamment sur le plan économique, on vous explique, mais attendez, il faut voir la faisabilité parce que le chiffre de ceci, le chiffre de cela. Donc là, je pense que ces critères-là ont été balayés. Et quand on dit, je le redis avec force, afficher le primat du politique et sur tout le reste, c'est déjà en soi un programme. Bravo pour le CNR. Et je remercie du reste Radio Galaxie de m'avoir donné l'opportunité d'essayer de déclencher un peu quelque chose dans les esprits.
Avec grand plaisir, Jean-Jacques Mirassou. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANACR 31, l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance du Comité Haute-Garonne. Merci beaucoup.
Merci à vous. Et est-il besoin de préciser que Radio Galaxie fait partie prenante de ce que j'écoute chaque fois que je suis dans ma maison du Volvestre. Il n'y a pas de journée sans Radio Galaxie.
Merci
de votre invitation.
Fidélité. Au revoir.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.